Bonjour à tous, toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pépita Fit. Aujourd'hui et pour la deuxième fois, je reçois Nina qui nous avait parlé dans le premier podcast avec elle de son ancien état d'obésité et de l'opération qu'elle a subie pour en sortir. Elle est donc avec nous aujourd'hui pour parler des conséquences de son opération à présent. Donc Nina, merci d'être là pour la deuxième fois avec nous.
Merci Pépita de me recevoir, je suis ravie d'être avec toi encore une fois.
Alors aujourd'hui, donc, on va parler des conséquences de ton opération. On avait vu dans le podcast 1 que finalement l'état d'obésité est un symptôme de troubles qui sont en fait beaucoup plus profonds et que l'opération ne soigne pas tout. Si elle permet d'améliorer effectivement la santé, elle ne règle pas le problème plus profond. Et à présent, j'ai une première question pour toi. Quelles sont en fait les premières conséquences de ton opération, tant du point de vue esthétique sur l'aspect en fait de ton corps que du point de vue physique, c'est-à-dire sur éventuellement l'amélioration de tes capacités physiques ou pas justement?
Alors les conséquences de l'opération, dans un premier temps, on ne se rend pas trop compte que ça va être une grande amélioration de la vie parce qu'on est d'abord très fatigué et on perd très très vite donc du poids. Ça c'est chouette au début parce que tu perds beaucoup. Mais t'es très 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 fatiguée, donc c'est un petit peu compliqué de réaliser tout de suite que ça va être un gain en termes de qualité physique. Après, sur le plan esthétique, évidemment il y a une transformation qui est radicale et rapide. Du coup justement, ce qui peut se passer la plupart du temps, c'est qu'il y a le temps entre la perte de poids et le réajustement de ton corps pour gérer le fait qu'il y a une différence morphologique importante. C'est trop rapide, donc ton corps il n'a pas le temps d'assimiler ce qui se passe, ce qui fait que parfois les gens peuvent se retrouver avec des situations de peau un peu distendue, parfois beaucoup. Même il paraît qu'il y a des personnes qui ont accumulé de la graisse au niveau du dos par exemple, et qu'en fait cette graisse elle soutient toute la colonne vertébrale, et qu'une fois qu'ils perdent, ils peuvent avoir de gros problèmes de dos notamment, parce fait ça a tenu pendant tellement de temps.
Après il faut se muscler quoi.
Exactement, et en fait il se rendait pas compte que c'était le gras qui tenait ça, tu vois, par exemple. Donc ça peut être très dangereux de perdre aussi rapidement. Et par contre au niveau esthétique, donc à part ces problèmes de peau, moi en ce qui me concerne j'en ai eu quelques-uns, mais c'était vraiment rien du tout par rapport à d'autres personnes. Et je sais qu'il y a beaucoup de chirurgies qui sont réparatrices, qui sont prises en charge après pour les personnes qui justement ont des dégâts de peau pour réparer leur ventre, leurs bras, leurs cuisses, etc. Parce que le corps il n'a pas le temps de se réadapter à ça en fait.
Ouais, mais c'est vraiment intéressant ça, que ces chirurgies là soient prises en charge.
Oui, je sais que la seule chose qui n'est pas prise en charge c'est la poitrine.
D'accord.
Voilà, pour les femmes, pour les hommes, oui.
Ah ouais, avant ça.
On considère que y a un aspect psychologiquement insurmontable pour un homme d'avoir des seins, par exemple, avec la prise de graisse. Et quand la graisse s'en va, il reste comme ça des mamelons un peu pendants de peau. Et ça, il le répare chez les hommes, mais pas chez les femmes, oui.
D'accord, donc bonjour, voilà. Le sexisme chirurgical,
exactement.
On adore.
Les garçons avec la peau qui pend au niveau des pecs, c'est pas gérable. Pour les filles, bon, c'est pas très grave. Voilà.
D'accord, donc t'as une perte de poids donc très rapide.
Oui,
comme
c'est très rapide.
Ouais. Et en fait, donc tu dis que tu sens pas au début les améliorations dans tes capacités physiques parce que déjà l'opération, on l'a dit, mais j'imagine que c'est à cause de ça, c'est très lourd.
C'est très fatigant, ouais. C'est très lourd, et puis après, pendant les premiers temps, t'as tellement pas de capacité alimentaire qu'il y a beaucoup de fatigue, et donc ça entraîne différentes choses, comme notamment t'as les ongles qui se cassent, tu perds beaucoup tes cheveux, enfin moi en tout cas j'ai beaucoup perdu mes cheveux, mais il y a certaines personnes pour qui c'est pire, mais ça c'est lié à des carences qui sont dans ton corps à cause de la sous-alimentation. Et je pense que c'est un cercle vicieux. T'as juste ce qu'il faut pour survivre, en fait. En fait, t'es en survie, je pense.
Ouais.
Ton corps, il ingère tellement rien qu'il se met dans un état où il pompe dans ta graisse, mais parce qu'il est vraiment au bout de ses possibilités. Ne serait-ce que respirer, se lever, marcher, c'est trop pour un corps qui est si peu alimenté.
D'accord. Donc, parlons-en justement de l'alimentation. Donc, après cette opération, tu peux plus manger, c'est
non.
ça?
Non. En fait, au début, tu peux même pas boire.
Ouais.
Et donc, c'est un peu l'objectif numéro 1, puisque c'est quand même plus important que de se nourrir pour la survie.
Ouais.
Et surtout, tu as des petits médicaments à prendre et tout ça pour gérer les potentielles carences, pour les antidouleurs et tout ça. Et donc, tu as des médocs à prendre pour que ton estomac il puisse à nouveau accepter d'ingérer certaines choses avec le traumatisme qu'il vient de vivre. que tu as quand même un estomac qui est recousu, donc c'est pas super top. Et là, eh ben, au départ, moi je sais que je supportais pas une gorgée d'eau, tu vois. Enfin, c'était vraiment très très compliqué.
Alors, tu dis que tu supportais pas parce que ça te faisait mal.
Alors, soit ça, je la vomissais tout de suite.
D'accord.
Voilà, parce que c'était pas gérable, en fait, mon estomac la supportait pas. Soit c'était des douleurs atroces, donc en fait, je le faisais pas ou j'attendais avec beaucoup d'appréhension. Mais au départ, t'as mal, mais tu recommences, t'as mal, mais tu recommences. Et puis en fait, après, ça fait un peu comme un réflexe de Pavlov, c'est-à-dire que t'es habitué à ce que boire ou manger égale douleur. Donc, eh bien, tu ne vas plus vers la nourriture ou vers l'eau spontanément parce que tu sais que tu vas souffrir.
D'accord.
Donc ça, ça a été la première étape, c'est d'abord boire et ensuite manger. Et je sais que dans le... Je pense que j'ai pu commencer à essayer de manger le troisième jour après l'opération. On essaye avant, mais ça, ça marche pas. Enfin, moi, en tout cas, ça n'a pas marché sur moi. Et après, troisième jour après l'opération, je pense que j'étais à une cuillère de compote par jour. Au bout d'une semaine, peut-être deux ou trois cuillères de compote par jour. Et ça, ça a duré longtemps. Ouais, d'accord. Manger très, très peu comme ça.
C'est vraiment, c'est vraiment assez impressionnant. Et pour ce qui est de boire, du coup, en combien de temps tu as pu finalement, je sais pas, boire un verre d'eau? Est-ce que tu as pu boire
beaucoup
un verre d'eau?
Ça, ça a pris beaucoup de temps. Je pense que ça prend... je pense au bout de deux mois, je pouvais peut-être boire un verre d'eau, mais pas une seule fois.
Ah, ouais, tu c'est quand même fou, parce que bon, moi j'attrape mon verre actuellement,
on se rend pas compte.
Voilà.
Et justement, on a des réflexes comme ça qui sont vachement intégrés à notre façon de vivre. Et moi, souvent, mon problème, c'était la nuit, parce que la nuit, j'oubliais que j'étais opérée. Enfin, tu te réveilles, t'as hyper soif, et je prenais mon verre d'eau, ma bouteille d'eau à côté de mon lit, et là, je me mettais à boire, mais en déglutissant très vite, comme on peut faire quand on a très soif.
Ouais.
Et en fait, là, c'était la fin du monde, il fallait tout que j'aille vomir. Enfin, c'était juste parce que c'était trop d'un coup.
Ouais.
Parce que j'avais zappé que j'étais opérée, mais parce que c'est des réflexes de vie. Oui, là, tu te rends compte que boire, manger, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est une super façon de se reconnecter à la nourriture. Parce que moi, je l'ai vécu comme si on faisait reset sur l'ensemble de ma relation à l'alimentation.
D'accord.
En fait, tu repars à zéro, comme si tu recommençais le début de ta vie par rapport à l'alimentation.
Ouais.
Tu vois, au tout début de ta vie, tu bois plus que tu ne manges, tu es sur du liquide et pas sur du solide, parce que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir remanger du solide.
Ouais.
Donc peut-être 4 mois, tu vois. Donc en fait, c'est comme si tu recommences tout nourrisson et que tu refais toute la démarche de l'alimentation de zéro à l'âge adulte.
Dans cette nouvelle démarche, t'en profites pour essayer
d'enlever
et d'enlever tous les troubles alimentaires
ouais.
que t'as pu avoir avant, qui sont liés à des problèmes psychologiques.
Et je pense que même cérébralement, ton cerveau, il recommence à zéro sa démarche et son lien à l'alimentation.
Ouais.
Donc c'est une vraie opportunité de réoffrir à tes papilles et à ton cerveau une nouvelle vision de l'alimentation et un rééquilibrage. Et en plus, comme t'es adulte, quand tu remanges du solide pour la première fois après 4-5 mois par exemple et que c'est compliqué, ça te fait vraiment prendre conscience de l'importance de ce que tu choisis. Vu que tu as peu de possibilités de manger, tu as intérêt à bien choisir ce que tu manges. Et là, tu réfléchis en termes de qu'est-ce que ça va m'apporter de manger. Et puisque vraiment là, tu es dans une démarche où tu vas manger pour survivre et pas vivre pour manger quoi.
Enfin, oui. T'es dans une démarche qualitative en fait.
Ah oui. Tu cherches qu'est-ce que je vais pouvoir donner à mon corps qui va lui permettre de tenir la journée, en sachant qu'il faudra recommencer à manger à peu près toutes les deux heures, mais parce que tu manges vraiment rien au début. Hein.
Ouais.
Mais du coup, tu réfléchis beaucoup à ce que tu fais.
Ouais.
Vraiment.
D'accord.
Donc ça, c'est très important.
Donc finalement, c'est douloureux,
c'est
dur, mais tu dis voilà, c'est une vraie opportunité. Ça t'a permis de prendre conscience de ce que tu mangeais et aujourd'hui de choisir du coup tes aliments. Effectivement, j'imagine que si déjà tu peux pas forcément boire un verre d'eau tout de suite, après quand tu vas manger un gâteau, quel qu'il soit, tu vas te dire que c'est ça de moins sur quelque chose de plus qualitatif que t'aurais pu manger, voilà, pour apporter des nutriments, être en bonne santé, etc. quoi.
Ah, il faut vraiment hyper sélectionner. Et dans ce cas, tu te dis, je vais peut-être pas manger un Twix qui va remplir mon estomac, alors que du coup, je vais pas pouvoir manger, mais ne serait-ce que des féculents à la place, mais qui sont déjà beaucoup plus intéressants que juste une dose de sucre. C'est pas gérable. Donc, tu réfléchis beaucoup. Et puis, parce qu'on n'a pas le temps non plus de se faire ce qu'on devrait faire, 7 à 10 repas dans la journée, fractionné, en fait, comme un repas normal de quelqu'un, mais tu fractionnes sur toute une journée, t'as pas le temps, donc vu que, parce qu'on a des vies actives, on a des choses à faire, ouais. Vu que tu vas peut-être en avoir que 3 ou 4, bah tu sélectionnes correctement ce que tu fais.
D'accord, donc tu veux dire que dans l'idéal, ouais. Vu que tu peux pas manger beaucoup, il faudrait que tu manges 7, 8, peut-être 10 fois par jour, mais ouais. C'est pas possible, effectivement,
non, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Après, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont parlé d'une forme de renaissance avec ouais. ce genre d'opération, qui ont l'impression d'avoir recommencé à vivre à zéro. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport à ce que je te dis là, de recommencer à zéro l'alimentation, le liquide, le solide, passer par des étapes. Parce qu'il y a des personnes qui... mais du coup, ce n'est pas de leur fait. C'est lié à l'éducation qu'ils ont eue, qui ont eu une mauvaise éducation à l'alimentation petit, ou du sucre dans les biberons, ou des choses, je sais pas, pour les faire manger absolument, des parents qui rajoutaient beaucoup de sel, ou des choses comme ça. Et là, du coup, c'est eux qui prennent en charge, du début à la fin, leur vision de l'alimentation, et je trouve qu'il y a une maîtrise, quoi, par rapport à ce que t'as pu
D'accord,
subir.
D'accord, oui, je vois un détachement par rapport à toute l'éducation ouais. qu'on a reçue, les normes qu'on a implémentées oui. en nous, par nos parents, la société, etc.
Exactement.
Ouais. Là, on peut choisir, en fait, à
Donc,
nouveau.
Donc, recommencer à zéro, exactement. Ouais. Et je pense vraiment que ça fait un parce qu'il y a beaucoup quand même de connexions neuronales liées à l'alimentation. On sait que les gens qui, à qui on présente des assiettes avec très peu d'aliments dans une assiette très large, tu sais quand tu prends des grandes
ouais,
assiettes
ouais, ouais.
et qu'on met pas beaucoup, ton cerveau il a la sensation qu'il va pas avoir assez à manger ouais. et donc quand il termine ses quantités il a encore faim, alors que si tu mets la même quantité dans une assiette petite, il a l'impression d'être gavé déjà à regarder et du coup il a plus faim quand il a terminé. Comme on sait que ça joue là-dessus, je pense que recommencer à zéro, c'est réhabituer ton cerveau à des toutes petites quantités. Et du coup, quand il voit un truc qui est plus gros, alors que pour toi, ça te paraîtrait rien du tout, mais pour nous, c'est énorme. Déjà, tu te dis, oh là là, il y a un changement de paradigme complètement dans oui. la façon dont je vois la bouffe. Oui. C'est vraiment une remise à zéro, quoi.
D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure en off, que pour toi, manger une barquette de fraises de 500 grammes, ça semble insurmontable, alors oui. que moi, je la défonce sans aucun oui. problème.
Oui, moi, ça me paraît incroyable comme quantité. Ouais.
Oui, voilà.
Après, c'est de l'eau, ça prend pas beaucoup de place et tout, mais moi, ça me paraît fou en quantité. Ça m'effraie d'avance, tu vois.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc, et là, je me rends compte, en fait, qu'autour de moi, les gens mangent beaucoup. Parce que ça, c'est un truc aussi qui m'a permis de comprendre l'opération. C'est qu'on survit, en fait.
Ouais.
C'est qu'on a souvent l'impression que si on mange pas dans la journée, c'est la fin du monde. Alors je vais avoir un discours qui n'est pas hyper hygiéniste et qui ne va pas trop dans le sens de ce qu'on attend, mais c'est vrai que ce que je constate, c'est que moi j'ai survécu quoi.
Oui.
Enfin tu vois, et donc concrètement, mon corps avec sa compote par jour, il s'en sortait. Alors j'ai pas dit que c'était une bonne chose, j'ai pas dit que je pouvais faire tout ce que je voulais avec ma compote par jour, hein. C'est
non.
pas le cas.
Et puis t'étais aussi dans un état tel
voilà,
que c'était le moment
faire,
où il fallait
bien
faire.
Sûr.
Voilà.
Mais je réalise simplement qu'aujourd'hui j'ai une vie active, je peux faire plein de choses et tenir ma journée, et que je mange beaucoup moins que la plupart des gens, et qu'en fait c'est tout à fait logique et tout à fait faisable. Ça veut pas dire que j'ai une alimentation parfaite, parce qu'il peut y avoir quelques carences, mais en tout cas j'ai une alimentation qui me permet de survivre et d'avoir un emploi du temps hyper chargé. Donc peut-être que les gens mangent plus ce dont ils auraient besoin.
Oui,
quand
oui,
j'entends des personnes
c'est
me dire
bien possible,
ah là là, je peux pas tenir ma journée sans goûter ou sans petit déjeuner, ouais, je suis pas. Du coup, je suis moins persuadée en fait. C'est
oui.
ça que je veux dire.
En fait, on est quand même dans une société assez sédentaire. On est de plus
ouais.
en plus sédentaire. Hein. Donc, effectivement, on a sans doute de manière générale l'impression que on doit manger beaucoup. Peut-être qu'on a effectivement pas une vraie vision des apports qu'on devrait avoir. Et en tout cas, ce que tu dis et qui est vrai, c'est qu'il faut dédramatiser la sensation de faim.
Oui.
Avoir faim, c'est pas grave, c'est simplement un signal que t'envoie le corps, il va falloir que tu manges à un moment ou à un autre.
C'est aussi des fois un signal à nos habitudes.
Et effectivement, tout à fait, si on a l'habitude de manger à midi, midi et demi,
et ben ouais.
dans l'heure qui entoure midi, on va avoir faim. Le corps est habitué effectivement à sécréter des hormones pour digérer tout ça, etc. Donc oui. Par contre, bon, on dit bien quand même qu'il faut manger, hein. Moi, j'insiste là-dessus. En plus, bon, c'est quand même un podcast autour de la musculation. Donc, on mange avant le sport, on mange, on nourrit son corps, on prend
voilà.
ses protéines, ses micronutriments,
non, c'est
etc. C'est hyper important.
Bien sûr.
Mais tout à fait pour ce qui est de dédramatiser, voilà, cette idée qu'il faille manger à tout prix tout le temps.
Oui, ou que c'est la fin du monde si on a sauté un repas, etc.
Voilà.
C'est pas bon quand on a une activité sportive régulière et bien entendu. Par contre, si vous passez votre journée assis sur votre canapé ou à traiter des
oui.
documents sur une table de bureau, il est possible qu'il n'y ait peut-être pas besoin de manger autant que ce que mangent les autres. Enfin, moi,
Exactement.
C'est ce que je regarde
oui.
et donc
oui.
du coup, ça me rappelle ce que je mangeais moi et je me
ouais.
dis... On a peut-être une notion des quantités qui étaient à revoir.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, c'est
tout à fait.
Voilà,
tout à fait.
Bien
et bien, du coup, comme tu parles de quantité,
oui.
quelle quantité tu peux manger aujourd'hui, et en fait, quel a été le parcours de ton alimentation? Quelle quantité tu pouvais manger au début? Tu dis une cuillère de compote, et aujourd'hui, t'en es où?
Alors, aujourd'hui, je pense que je peux manger entre 150 et 200 grammes de nourriture par repas. Donc, ce que j'appelle un repas, c'est quand je mange d'un coup. Enfin, quand je prends un temps, et ça, c'est ce que je peux manger en une seule fois. Enfin, pas en une seule bouchée, on est bien d'accord, mais en fait, d'habitude, je fractionne. C'est-à-dire que je vais manger mon petit déjeuner, par exemple, je vais prendre mon café, et une demi-heure ou une heure plus tard, je vais manger le reste. Donc, une tartine, de pain, avec du beurre, ce que tu veux. Mais je vais la couper en deux, et je vais la manger d'abord l'une, puis après, je vais faire m'habiller, me doucher, et je remangerai l'autre après.
D'accord.
Donc, tu vois, je fractionne beaucoup, parce que sinon, je me sens pas bien. Donc, ce que je peux faire sans avoir besoin de fractionner, c'est entre 100 à 200 grammes de nourriture par repas. C'est hyper variable.
D'accord.
Mais 200, je suis en train de le dire en pensant que c'est beaucoup, mais c'est peut-être faisable. Mais sinon, si je vois que... en fait, je me fixe des objectifs. Mm-hmm. Et si je vois que j'y arrive pas, j'essaie de retenter une demi-heure plus tard. Mais ça, ça vaut que si je suis en mesure de le faire dans mon emploi du temps. Tu vois?
D'accord, oui.
Parce que si je dois aller travailler, ben tant pis, je mangerai mieux ce soir et puis voilà. Mais l'idéal, ce serait de pouvoir fractionner comme ça, mais en fait, tu peux pas. Enfin, t'as une vie, c'est pas possible. De toute façon, c'est pas très clair ce que je raconte.
Si, si, alors en fait, du coup, finalement, c'est difficile pour toi de manger un repas complet, entier.
En une fois, en fait. En un temps qui est lié au repas.
Oui. Donc ton petit déj, voilà, tu le prends en 2 heures au final.
Oui, c'est
quoi.
Ça, exactement.
Voilà. Et quand tu peux manger en une fois, c'est maximum, grand max.
150, 200 grammes, ouais, voilà. C'est ça.
Donc c'est quand même pas énorme, hein. Il faut savoir, peut-être pour nos auditeurs, auditrices, imaginez-vous, une pomme de taille moyenne, c'est entre 150 et 200 grammes.
C'est
ça. Donc voilà, c'est ça quoi, au total, en termes de poids, ce qu'elle peut manger.
Après, ça va dépendre des aliments. Je vais pas te mentir, mais quand c'est des aliments qui sont plus proches du liquide que du solide, ça va être beaucoup plus facile. Je sais pas, de la purée, des soupes, des machins, là la quantité va être beaucoup plus facile à ingérer. Ce qu'il faut gérer, c'est l'eau, ne pas mélanger l'eau et les repas, et essayer de pas boire une demi-heure avant les moments où je mange, parce que sinon ça remplit mon estomac et là j'ai pas la place pour manger.
D'accord, donc en fait ça devient très compliqué de manger.
Faut beaucoup penser.
Ouais,
faut beaucoup réfléchir et se dire, tiens, je vais pas avoir forcément le temps de tout manger ce qu'il faut. Donc, je vais me focaliser sur les éléments importants de ma nourriture. Donc, peut-être aujourd'hui, je n'ai pas mangé mon yaourt en dessert ou je n'ai pas mangé le petit gâteau que j'avais prévu de manger, mais je vais plutôt manger l'avocat et les pâtes que j'avais prévues pour le repas de midi, parce que ça, c'est plus important pour ma journée que la sucrerie ou la bêtise, tu vois.
Ouais, d'accord. Voilà.
Mais c'est tout et tout temps hyper réfléchi à l'avance.
Oui, carrément. Si tu dois boire bien avant de manger, en fait, si tu as soif, tu dois te dire, attends, est-ce que je mange après? Par exemple, je sais pas, tu es au travail, ta pause déjeuner, c'est à 13h30.
Ouais.
Tu as 13h30, 14h pour manger. Mais si tu as soif, tu peux choisir, quoi.
Oui, et même, je vais te dire, si je sais que je reprends à 14h, je vais faire en sorte d'avoir terminé de manger au moins une demi-heure avant un moment où je dois reprendre une activité intellectuelle ou physique.
Ah ouais?
Parce que, en réalité, je suis très vite fatiguée quand je mange, parce que le processus de mon opération fait que l'estomac, comme il est tout petit, il sécrète tout ce qu'il peut pour digérer ce que j'ai mangé.
D'accord.
Donc, il est dans une suractivité. Et vraiment, c'est la sensation que j'ai, c'est l'énorme repas de Noël avec 25 personnes où tu finis à 18h, t'en peux plus. Et il y a tout le monde a un petit peu une sensation de somnolence, tu vois. Donc, parce qu'en fait, il y a eu trop de nourriture et que ton corps, il se met en petite pause pour pouvoir se consacrer à l'exercice de la digestion, qui demande beaucoup d'énergie, plus qu'on ne le pense d'ailleurs, et qui ne peut pas gérer le reste des activités physiques et corporelles en dehors de survivre et digérer.
Voilà. D'accord, donc
là, penser, c'est pas possible, agir, c'est pas possible. Et vraiment, moi, j'avais des symptômes mais d'endormissement profond, mais contre lesquels je pouvais vraiment pas lutter. Après avoir mangé, au début, c'était ridicule parce que je mangeais, je sais pas, un yaourt, et là, j'avais envie de dormir, mais de folie.
Ah ouais.
Tu vois, tellement j'étais crevée. Et donc, du coup, c'était hyper compliqué parce qu'entre midi et deux, avant, quand je travaillais en tant que prof, là, je devais reprendre les cours à 13h30. Mais j'avais tellement envie de dormir, donc je voulais dormir vite fait dans ma bagnole avant de repartir en cours, mais tellement. Voilà, et donc tout devait être calculé tout le temps. Et c'est encore le cas. Si je vais voir des gens, je sais qu'il faut que je mange bien tant de temps avant pour éviter d'être pas rentable dans ma discussion et tout ça.
D'accord. D'accord, donc bon, finalement, il y a deux choses qui découlent de ça. C'est que bon, c'est très compliqué de manger. Enfin, ça demande beaucoup d'organisation, on va dire plutôt. Et puis, t'es plus, du coup, j'imagine, dans le rapport nourriture-plaisir. C'est-à-dire, si t'as envie de manger une glace, tu vas devoir réfléchir à quel moment je peux la manger.
Exactement. En fait, c'est à double tranchant, cette histoire. C'est-à-dire que l'alimentation devient tout le temps problématique. Mm-hmm. Mais en fait, elle l'a toujours été, puisqu'avant, c'était quand même un problème. Mm. Mais en même temps, il était possible avant pour toi de manger sans justement prendre conscience que tu mangeais. Et c'est un peu ça le problème aussi de certaines personnes qui ont des problèmes de surpoids. C'est qu'ils vont manger machinalement, sans réfléchir et regarder ce qu'ils mangent. Un peu aussi comme s'ils faisaient une barrière psychologique pour pas voir qu'ils sont en train de manger. Mm-hmm. Tu vois. Un peu comme le fumeur qui s'allume sa clope et il s'est même pas rendu compte qu'il avait fumé.
Ouais.
Ben, c'est un peu l'idée. Et alors que là, tu peux plus. T'es focus sur ce que tu bouffes à chaque fois que tu bouffes un truc. Et je pense que quelque part, ça a quelque chose d'hyper positif aussi, parce que c'est une reconnexion totale. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un aliment rentre dans ton corps, tu sais lequel, tu sais pourquoi, tu sais à quel moment. Donc, c'est plus un truc que tu fais au hasard.
Ouais.
Et ça, c'est pas mal aussi, parce que du coup, c'est une façon de réinvestir ton rapport très sérieusement à la nourriture. Par contre, c'est un poids social terrible.
Ouais, voilà,
c'est ça. Au quotidien, c'est super lourd. Et puis, des fois, on en a juste marre. Donc, la tentation, c'est de plus manger ou de faire un écart et de manger beaucoup moins. Parce que c'est trop de préoccupations. Donc, ça, c'est un des risques. Hein. Il y a pas mal de personnes qui ont été opérées qui basculent de l'obésité à l'anorexie dans les premières années des slims. Ouais, c'est un des dangers. Et qui, par exemple, se disent bah, tiens, je vais me remplir l'estomac avec du liquide en permanence, comme ça, j'ai jamais besoin de manger.
D'accord. Parce que ça devient trop compliqué de manger.
Parce qu'il y a aussi une frénésie de la perte du poids et parce que ces gens ont un problème alimentaire et que c'est pas parce que tu coupes la source de la résolution du problème qui était je compense en mangeant beaucoup que le problème il va pas se réinvestir dans une autre situation, à savoir par exemple cette fois-ci je vais maîtriser mon corps en perdant le plus de poids.
Oui, voilà, donc c'est ce qu'on disait effectivement dans le premier podcast, hein. C'est un symptôme, il est important de régler la vraie source du problème.
Oui, bien sûr, c'est un travail qui est complexe et qu'il faut prendre à tous les niveaux. Et il faut faire gaffe aux carences aussi. Je sais pas si j'en ai suffisamment parlé.
Vas-y, je t'en prie.
Mais il faut faire attention à se faire suivre, à faire des prises de sang régulières. Ouais. Comme ton estomac, il est plus petit. En fait, en coupant l'estomac pour la sleeve, on coupe. Alors après, c'est peut-être pas comme ça pour le bypass et l'anneau, c'est sûr que non. Mais comme tu coupes en fait des zones dans ton estomac qui sont faites pour l'absorption de certains nutriments.
D'accord.
Notamment, ça peut être très compliqué par rapport à la contraception orale.
D'accord.
C'est-à-dire que les personnes qui prennent la pilule, il faut savoir que ton estomac, il ingère moins bien les substances qui sont à l'intérieur de la pilule. Donc, l'absorption se fait mal. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir des soucis de fécondité non voulue à cause de ça. Ça fait partie des trucs qui doivent être embêtants, mais pas non plus vitaux. Mais par contre, pour des vitamines vitales, le fer, etc., ça peut être très compliqué. Moi, j'ai eu des grosses carences de vitamine B12, mais parce que mon estomac, il n'ingère plus. Et je croyais que c'est parce que je mangeais pas assez d'aliments qui en contiennent.
Ouais.
Et mon médecin m'a dit qu'en fait, j'aurais beau manger des protéines animales tous les jours avec du B12 en force dedans, de toute façon, mon estomac ne l'assimile pas bien.
D'accord.
Donc, c'est pas une question de quantité.
Ouais.
C'est que c'est
t'es foutu, quoi.
Où, voilà. Donc là, c'est complément.
Ouais. D'accord. Donc ça, c'est effectivement très important de le dire, quoi. Se faire suivre régulièrement pour vérifier les carences.
Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et après, il faut dire des choses positives quand même, peut-être.
Ouais, mais t'en as dit, je trouve que t'en as dit pas mal.
Non, mais on finit quand même par retrouver de l'énergie, par retrouver de la force et par se dire qu'on est vraiment content d'avoir une mobilité qu'on n'avait plus.
Ouais, clairement, j'imagine, c'est vrai. Bien sûr. Le début doit être vraiment extrêmement difficile.
Mais en même temps, oui et non, parce que tu le supportes super bien, tellement t'es tellement content de perdre du poids. En fait, tous les jours, même si t'es crevé, même si c'est la fin de ta vie, tu fais zéro activité physique, c'est sûr que t'es claqué, mais par contre, il y a moins 5 kilos sur ta balance en 5 jours. Il y a 1 kilo par jour qui part à peu près, entre 1 et 1,5 kg par jour.
Ouais. Ce qui t'était pas arrivé depuis des années.
Tu mettais 2-3 semaines à perdre 1 kilo que tu reprenais dans la demi-journée qui suit. Donc, bien sûr, c'est incroyable. Je pense que chaque dizaine que tu passes en moins, les gens ils deviennent fous de joie. C'est normal. Donc là, tu supportes en fait tout ça.
Donc tu regrettes pas du tout.
Je regrette plutôt d'être arrivée en état d'obésité, alors que je pense que ça c'est évitable.
Ouais.
Et je regrette d'être obligée d'en arriver là. Je regrette pas hein, aujourd'hui d'avoir le corps que j'ai.
Ouais.
Je regrette pas mon parcours non plus parce que je me dis que c'est ma vie et qu'on vit avec ces cicatrices-là. C'est pour ça, par exemple, que moi, je me fais pas retoucher au niveau de la peau et tout ça, que je laisse mon corps tranquille. Ouais. Mais aussi que je me dis que si j'ai des vergetures, de traces, du fait que j'ai pris du poids et perdu, ben, c'est ma vie en fait. C'est ma cicatrice, faut que je garde ça. Tu vois, ça me... faut pas oublier de là d'où on vient. Après, on n'est pas obligé d'avoir vécu des trucs durs pour être heureux. Mais je ne peux pas faire autrement, c'est juste ma vie. Je pense juste que ce qui est pas à regretter, c'est de ne pas s'être laissée dans cette situation. Je suis hyper contente d'être sortie de l'état d'obésité.
Ouais.
Je pense juste que si on peut éviter d'avoir à passer par un truc qui est aussi trash quand même, parce que c'est pas rien de se faire enlever la moitié d'un organe vital.
Ouais.
Et si on peut éviter le fait de se retrouver amputé à vie de quelque chose qui est quand même nécessaire à la survie, c'est pas plus mal. Donc c'est ça que je regrette, d'être arrivée au moment où t'es obligée d'en arriver là. Tu comprends ce que
je veux dire ? Ouais, complètement. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices comprendront bien.
Chouette.
C'est un beau message pour conclure ce podcast. Merci beaucoup Nina de nous avoir raconté, partagé cette expérience.
Et ben merci à toi Pépita de m'avoir invitée, ça m'a fait vraiment plaisir.
Ah, j'ai vraiment hâte de faire le troisième podcast avec toi et de pouvoir du coup partager avec nos auditeurs auditrices ton rapport au sport aujourd'hui, la place du sport dans ta vie. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuitée, et j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.